Ultime 7h14 de réveil pour la maire de Marseille en tant que maire de Marseille.
Ce matin, je me réveille. Dernier jour de l'aventure. Voilà, j'ai les frissons de partout. Oh là 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 là, je suis ému. Ah, c'est vrai, parce qu'on a passé quand même une aventure de dingue.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, le gouvernement doit présenter sa stratégie vaccinale aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Les établissements d'hébergement, les résidences pour personnes âgées seront prioritaires, alors particulièrement touchés par la pandémie. Les EHPAD dénombrent plus de 24 000 morts dues au Covid. La vaccination devrait y démarrer en janvier. Une vaccination non obligatoire, mais néanmoins primordiale pour des personnes vulnérables qui ne sont pas toujours en mesure de donner leur consentement. Et c'est ça le problème. Bonjour, docteur Michel Lévy-Soussan. Vous êtes co-animatrice de la cellule de support éthique sur le groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière. Avec tout d'abord une première question, les résidents d'EHPAD représentent plus de 40% des décès dus au Covid. Certains sont séniles, atteints d'une maladie neurodégénérative. Comment est-il possible, dans ces conditions, de les vacciner?
Oui, alors la population des personnes âgées en résidence en EHPAD concentre le problème principal et c'est avec eux que nous allons commencer à penser cette stratégie vaccinale. Mmh. Ils concentrent cette problématique du recueil du consentement puisqu'une personne sur deux, comme vous le rappeliez, est atteinte de troubles cognitifs sévères. Or, le consentement est la pierre angulaire de l'éthique médicale. Pour mémoire, c'est avec Nuremberg que la notion de consentement aux soins apparaît avec force pour rappeler que le malade est une personne humaine et que le recueil du consentement consacre sa liberté. Or là, on se retrouve, comme avec beaucoup d'autres patients en EHPAD et ailleurs, face à la question du recueil. Il faut savoir que le consentement est devenu aujourd'hui central dans bon nombre de lois, de règlements. Or, on ne soigne pas avec des lois. On soigne dans une clinique, dans une présence responsable, à l'écoute du patient, à recueillir ce qu'il peut manifester, bien sûr après l'avoir informé, de la visée du soin, des risques du soin. Et c'est avec tout ça que l'on va chercher à recueillir son consentement.
Bon, on ne soigne pas avec des lois, c'est entendu, docteur, mais il y a de plus en plus de problèmes d'ordre juridique qui se posent pour les médecins. On peut imaginer par exemple la famille d'une personne vulnérable. Est-ce que celle-ci pourrait poursuivre les médecins dans le cas où il y aurait vaccination ou bien au contraire non-vaccination? Qu'en est-il?
Oui, je crois que c'est justement en faisant un pas de côté vis-à-vis de cette inquiétude de la judiciarisation qu'on sera au plus proche de ce qui est bon, souhaitable pour et avec la personne vulnérable. C'est-à-dire que cette inquiétude aujourd'hui très présente vis-à-vis du risque judiciaire ne doit pas commander notre attitude clinique. Elle doit toujours être dictée par le respect de la personne humaine, du malade comme personne humaine, à la recherche donc de son consentement.
Mais alors, comment s'y prendre concrètement pour cette vaccination? Parce qu'on a tous des personnes qui, aujourd'hui, n'ont plus leur libre arbitre autour de nous. Et on voit bien qu'il est parfois difficile déjà de leur donner des médicaments tous les jours. Donc, pour la vaccination, il est quasiment inenvisageable d'obtenir d'elles un oui ou un non massif.
Voilà. Alors là, vous montrez bien que vous êtes au cœur de la complexité de l'humain, c'est-à-dire autant le droit connaît des catégories binaires, on est en mesure ou on n'est pas en mesure de se déterminer, mais on sait bien que la complexité humaine est beaucoup plus nuancée. Dans une même journée, on peut passer par différents états de oui, de non, d'approbation, de refus, d'opposition. Et donc, c'est bien là, dans cette réalité de l'humain, qu'il nous faut inscrire le soin. Donc, comment? C'est bien sûr en essayant déjà d'inscrire ça dans une relation de confiance. Une relation de confiance qui s'inscrit dans une histoire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, avec des équipes qui change toujours. C'est très important d'avoir des transmissions, d'avoir vraiment un récit de la personne pour pouvoir s'appuyer, et bien sûr, dans la confiance avec les familles, pour pouvoir appuyer ce consentement sur au plus près de la personne. Mais vous le dites, ça peut être oui un jour, non un autre jour. Alors, il faut aussi qu'on soit imaginatif le même jour. Imaginatif, créatif aussi, dans la façon de communiquer, d'essayer de représenter ce que peut être cette vaccination. Le souci principal de ces personnes peut être déjà premier, c'est-à-dire vis-à-vis d'une agression physique, tout simplement d'avoir une nouvelle injection, plus que le risque immunologique, le risque du devenir de l'ARN messager, etc. Donc, je crois qu'il faut déjà être, on peut passer par différentes formes aussi de médiation, des petits films, tout ce qui va permettre à la personne âgée, vulnérable, de se représenter aussi. Mais surtout, au plus près, ce sont les aides-soignantes, les infirmières qui vont être le mieux placées pour apporter cela à la personne vulnérable.
Bon, mais alors, d'autant, docteur, que si l'on prend les EHPAD, il n'y a pas seulement, en fait, une question de responsabilité individuelle par rapport aux patients, il y a aussi une responsabilité collective par rapport à toutes les personnes qui sont dans l'EHPAD.
Bien sûr, mais c'est là où la question éthique de la tension entre la protection de l'individu et la collectivité est centrale. Mais on sait bien qu'on ne peut pas protéger la collectivité sans l'engagement de la personne. Donc, nous sommes en permanence dans cette épidémie à différents niveaux, du plus intime au plus collectif et politique et au plus haut niveau de responsabilité, dans cette tension entre le respect de l'individu et la protection de la collectivité. On ne pourra pas protéger les autres résidents de l'EHPAD si la personne concernée, même par son langage corporel, refuse cette injection. Et on continuera à faire petit à petit comme on a fait jusque-là.
Et alors, plus généralement, comment envisager les fêtes en EHPAD quand il y a des personnes vulnérables? On sait déjà que le temps a été extrêmement long puisque la pandémie a exigé des mesures qui sont des mesures particulièrement cruelles, des mesures d'isolement. Comment voyez-vous les choses pour déjà les jours à venir, docteur Lévy-Soussan?
Oui, donc, comme j'ai essayé de le dire, je pense que c'est pas des mesures de recueil de consentement par écrit qui vont nous garantir quoi que ce soit de l'expression du consentement de la personne. Il faut être attentif à tout ce qu'elle peut manifester. Mmh. Et les cliniciens de l'aide-soignante ou toutes les personnes qui travaillent auprès du patient sont là pour recueillir ce consentement. Ce qui concerne la présence dans ces moments de fête, elle me paraît essentielle et nous devons la favoriser par un accompagnement. Il faut des volontaires pour accompagner les familles, pour leur permettre d'être dans le respect.
Donc il faut aller voir les aînés?
Oui, il faut aller voir les aînés. Surtout, je pense que cette épidémie a ce côté tragique et extraordinaire d'interroger chacun sur son rapport au risque, à l'intime, au lien. Et donc, évidemment que cette question des fêtes va venir aussi cristalliser le rapport que chacun de nous entretient à ses plus proches, ses aînés, la façon dont on se manifeste sa présence. Certains vont le faire par la distance, par l'inquiétude, par une forme de protection en se tenant à distance, mais d'autres souhaiteront, et il faut pouvoir les accompagner, et je pense que en mettant des moyens pour accompagner les familles pour qu'elles puissent se protéger et protéger leurs aînés et l'ensemble de la collectivité des résidents en EHPAD, il faut favoriser leur présence lorsqu'elles le souhaitent.
Donc ne pas considérer que le principal risque est celui du virus, il faut être présent aux côtés de ces personnes âgées, docteur.
Oui, on sait bien que l'isolement en EHPAD a été le premier pourvoyeur des victimes, des résidents en EHPAD qui ne se levaient plus, qui mouraient parfois d'escarres, d'isolement, de solitude, de chute, de ne plus avoir ces espaces de socialisation tout à fait essentiels.
Merci beaucoup, docteur Lévy-Soussan. Il est 7h23 sur France Culture.